Bonjour, bonjour à tous. L'intelligentsia du Septentrion se réunit à Marois. C'est à la faveur d'un colloque international sur les enjeux et perspectives techniques, économiques et sociales à l'horizon 2035. Une soixantaine d'intervenants, des universitaires nationaux et ceux de la diaspora, une bonne fourchette de membres de la société civile et des opérateurs économiques ont été donc conviés pour ce colloque. Près d'une soixantaine de thèmes variés fédérateurs ont été donc débattus, de l'énergie renouvelable de TIC à l'économie sociale. Pendant trois jours, du 12 au 15 décembre, le Septentrion donc, s'est régalé et se régale toujours donc, des œuvres de l'esprit avec une incidence, tenez-vous bien tranquille, réelle sur la vie quotidienne des populations. Des applications présentées, des applications concrètes dont tenez la calculatrice parlante pour malvoyants, inventée, mise sur pied par, Wang Sui, il est informaticien de formation. Jorui Temwa lui aura mis sur pied une application qui répertorie les pharmacies de garde, une application déjà opérationnelle sur le web. Ce sont nos deux invités. Le troisième, c'est Monsieur Amadou Zrumba qui aura lui le mérite d'être au centre donc, de cette grande machine. C'est donc le principal chef d'orchestre. Il est informaticien, ingénieur en informatique, génie logiciel en Allemagne. Quatrième invité Dorothée Danedio Foba, journaliste multimédia qui effectue le déplacement donc pour Yaoundé. Elle a parlé de l'internet, de l'intranet et des logiciels libres, très mal connus d'ailleurs des internautes. On reviendra tout à l'heure de en parlant très amplement. Vous êtes très nombreux à vouloir vous intéresser donc, à vous intéresser à ces différentes thématiques. Et notre code d'accès, c'est envoyer vos SMS au 96 82 59 76 et vous aurez certainement des réponses ici en direct. Équipe donc de production, Simon Domouchi, Honoré Boaké, Djamo Amen. Monsieur, une fois de plus, bonjour. Vous suivez la CIRTV, station régionale de l'Extrême Nord. C'est un débat autour de ce colloque qui se tient dans la ville de Marois, qui parle donc des enjeux et perspectives techniques, économiques et sociales pour le développement des régions du Septentrion, donc du Cameroun. Alors, monsieur Amadou Zumba, bonjour, bienvenue dans nos studios.
Bonjour.
Alors, revenez d'Allemagne, vous êtes de la diaspora. Qu'est-ce que vous faites là-bas?
Je suis informaticien de formation. J'exerce dans le génie logiciel, c'est-à-dire nous développons des applications que l'entreprise utilise pour dans le domaine de la métrologie optique. Donc, l'entreprise s'appelle ZEISS, SMT, c'est une entreprise de semi-conducteurs. Je crois que c'est...
Voilà, et quand vous venez avec ces grandes idées comme ça pour le Grand Septentrion, l'application concrète pour nous qui vivons au quotidien, qu'est-ce qu'on gagne?
Je crois que si on voit un peu les thèmes qui ont été retenus, surtout les ateliers, les énergies renouvelables, les TIC et surtout l'économie sociale et projets de développement, je crois que ça englobe tout pour la société civile, les populations, parce que quand on parle des énergies renouvelables, nous savons tous que l'AES Sonel ne couvre pas des villages. Et si on a ces technologies, les énergies renouvelables, qu'on peut utiliser dans des villages, même sous forme de lampes qu'on pourra mettre au bord de la route, nous qui avons fait les études primaires et secondaires ici dans le 71, on sait de quoi on parle. À l'époque, on allait au bord de la route pour apprendre parce qu'à la maison, on n'avait pas de la lumière. Et ce genre d'initiative pourrait peut-être booster et encourager les jeunes qui aimeraient apprendre quelque chose. De deux, quand on parle de TIC, je crois qu'on va aborder le thème des logiciels libres. Les logiciels libres pourrait aussi servir au développement des services qu'on peut mettre à la disposition de beaucoup de personnes démunies. On va tout à l'heure parler de Kalkingal et surtout aussi d'un logiciel mobile qui va aider nos populations à savoir exactement quelles sont les pharmacies de garde et ainsi de suite. Je crois que grosso modo, à ce niveau, nous avons déjà couvert à travers les technologies qu'on maîtrise beaucoup de domaines sociaux et surtout des projets de développement qui pourraient booster le développement agro-pastoral.
Voilà, vous le dites si bien, M. Amadou Zoumba, mais il y a quand même une question qui nous taraude l'esprit, qui est une préoccupation de beaucoup de nos auditeurs. On a parlé de la fibre optique qui dessert déjà la région de l'extrême nord, mais jusqu'à aujourd'hui, se connecter sur Internet reste un parcours de combattant. Alors, le problème, le blocage, c'est quoi? Vous n'en avez pas parlé lors de votre colloque. On attendait ça. C'est comme un véritable serpent de mer. C'est arrivé et on n'est pas sorti de l'auberge.
Je crois qu'au niveau de la fibre optique, j'étais au Cameroun en mars dernier et j'avais vu comment on plaçait la fibre optique tout au long de la route. Et je crois que le travail est en cours. Et avant de dire que ça ne fonctionne pas, il faudrait d'abord que tout soit en place.
Il faudrait attendre 10 ans. Chez les autres, c'est une histoire de 6 mois pour faire
quand j'essaie de voir, je me base sur ce que je lis et surtout ce que je vois sur Internet. Il y a beaucoup de projets, surtout au niveau de l'Afrique centrale où le Cameroun est quand même le pays le mieux vu. Et là où il y a un projet pilote qui devait couvrir la zone CEMAC. Et nous sommes convaincus que malgré des difficultés, ce projet va voir le jour et c'est normalement un projet qui devrait finir d'ici 2013.
Voilà, on va revenir avec vous tout à l'heure. On va insister, on va revenir sur la fibre optique et voir comment ça peut marcher et qu'est-ce qui ne marche pas. Quelles sont les raisons donc, qui retardent un peu la bonne marche donc, de cette fibre optique pour la rendre opérationnelle pour les habitants. Alors, nous avons d'autres applications qui ont le vent en poupe, qui peuvent avoir le vent en poupe, c'est la calculatrice pour malvoyants, cette calculatrice a été donc mise sur pied par M. Wang Sui Wambicheng, voilà, vous êtes informaticien et vous êtes enseignant au département d'informatique de l'École normale supérieure de Maroua. Bonjour, bienvenue sur les antennes de la CRTV.
Merci, bonjour.
Alors, cette application, ça fonctionne comment?
Mais disons que nous sommes partis d'un constat. Le constat, c'est que de façon globale, les personnes handicapées, que ce soit des personnes handicapées visuelles, que ce soit des handicapés moteurs, ils ont un problème. Ils sont généralement délaissés. Et nous avons dit, mais tiens, avec l'arrivée de TIC, comment est-ce qu'on peut leur apporter notre contribution pour leur insertion socio-culturelle, leur insertion dans la société? C'est la raison pour laquelle nous avons initié, il y a 2 ans, ce projet, Kalkingal. C'est un projet de calculatrice parlante en foufoulé, de sorte que les personnes cibles, c'est-à-dire les handicapés visuels, les malvoyants, dont on a fait le test au centre de promotion et de formation des aveugles de Maroua.
Est-ce que vous avez un échantillon ici? On peut l'essayer?
Un échantillon, non. Disons que la calculatrice fonctionne sur une plateforme d'ordinateur.
Oui.
Mais l'idée, comme nous l'avons expliqué hier lors du colloque, c'est que nous migrions de cette plateforme sur ordinateur vers une calculatrice telle que nous l'avons aujourd'hui entre nos mains. De sorte que les handicapés visuels pourront avoir également cet outil qui leur parlera en foufoulé lorsqu'ils auront à faire des opérations.
Est-ce que cette application a la portée de malvoyant le plus démuni?
Naturellement, puisque il est en usage au centre de promotion et de formation des aveugles de Marois, de sorte que ceux qui y sont, il la manipule cette calculatrice au jour le jour.
Voilà, ça signifie que M. Bellogaré l'a essayé, lui qui
le
représente
fondateur.
Donc, voilà, il est l'un des formateurs du côté donc, de ce centre. Monsieur Djoroué Temwa, bonjour.
Bonjour.
Vous avez le mérite de mettre sur pied, par le biais du net, une application mobile pour répertorier les pharmacies de garde, pour nous dire quelle est la pharmacie de garde aujourd'hui, pour faciliter un peu, peut-être sauver, pourquoi pas sauver les vies humaines. Alors vous êtes à l'ISS de Marois, département informatique et télécommunications. Alors comment ça se présente?
Merci M. Jamo Aman de l'occasion que vous me donnez pour présenter cette application qui, je pense, sera d'une très grande utilité pour nos populations. Alors, vous savez que notre pays, parmi les problèmes les plus importants, les plus cruciaux, il se trouve la santé et l'éducation. Et j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice en proposant aux populations un outil qui allait les aider au quotidien. Et il m'a semblé que savoir quelle est la pharmacie de garde, parce que la maladie ne se déclenche pas les jours ouvrables où il peut
la,
arriver
la maladie
que,
ne vous donne pas rendez-vous.
Voilà, la maladie, justement. Donc si d'aventure à minuit, vous avez un malade et qu'il faille acheter le produit, ce qui se passe actuellement, c'est que vous allez à la première pharmacie, vous vous rendez compte que cette pharmacie n'est pas de garde, il y a une plaque qui vous indique que c'est plutôt telle pharmacie qui est de garde et vous allez à cette pharmacie de garde. Donc ça vous coûte du temps.
Du temps.
Ça vous met en insécurité parce que quand vous quittez soit l'hôpital, soit la maison pour acheter un produit, vos proches ne savent pas exactement où vous allez. Donc, d'où l'idée de proposer une application mobile. Parce que l'idée au départ, c'était de faire une application mobile téléchargeable sur les téléphones. Le téléphone aujourd'hui ne nous sert pas seulement à appeler, à recevoir des appels, à envoyer des SMS, mais également à... Le téléphone permet d'avoir des applications qui nous aident au quotidien. Donc, le projet a commencé il y a environ 2-3 ans.
Peut-être comme information, l'Afrique est le deuxième marché de téléphones mobiles. Révélation a été faite ce matin. Oui. Avec plus de 600 millions.
Voilà, justement. Et le domaine des applications mobiles n'a pas encore décollé dans notre pays. Et il m'a semblé que si nous attendons que les autres viennent le faire pour nous, nous allons attendre pendant longtemps. Donc, comment se présente cette application? Il y a un site web qui existe déjà et où ceux qui sont intéressés peuvent déjà actuellement consulter quelle est la pharmacie de garde.
Quel est
le site...
L'adresse?
L'adresse c'est... Il n'y a pas de 3W, c'est pharmacie-2-garde.appspot.com.
Tiré de 6 ou tiré de 8?
Tiré de 6.
Tiré de 6.
Donc, voilà. Donc je répète, pharmacie au pluriel, de garde, tiré de 6, 2-garde.appspot.com.
Voilà, vous qui êtes à la maison, vous pouvez également l'essayer et nous rappeler ou envoyer un SMS pour participer dans en direct à cette émission au 96 82 59 76. Si vous avez donc des préoccupations par rapport à la tenue donc, de ce colloque, vous pouvez intervenir. Danedio Fobard, Dorothée, bonjour. Bienvenue
bonjour.
Sur l'antenne de la CR TV.
Bonjour.
Voilà, vous pouvez nous parler des logiciels libres, c'est pas à la portée de tout le monde, on ne connaît pas beaucoup de blogueurs, de blogueurs, beaucoup d'internautes d'ailleurs ne connaissent pas. C'est quoi un logiciel libre?
Bon, je dirais que c'est assez simple, c'est logiciel libre, libre
Oui.
d'utilisation totalement.
Voilà.
En fait, c'est le contraire de ces logiciels à licence que nous utilisons. Par exemple, quand nous installons un Windows sur notre machine, il faut avoir une certaine licence pour pouvoir l'utiliser. Et tous les logiciels qui viennent accompagner ce système d'exploitation-là, généralement, sont payants. Or, les logiciels libres ne se retrouvent pas dans cette catégorie-là, parce que généralement, il suffit d'écrire par exemple au concepteur ou au fabricateur de ce logiciel-là pour pouvoir l'acquérir sans frais et pouvoir travailler dessus sans trop de difficultés.
Alors, quand on va dans un moteur de recherche comme Google par exemple, on écrit le logiciel libre, on peut avoir la liste.
On peut avoir une liste non exhaustive de tous ces logiciels libres-là. Justement, je prendrai, par
Des
exemple,
exemples?
dans votre cas,
Oui.
vous qui êtes journaliste, vous allez, par exemple, sur Google, vous tapez logiciel libre plus radio, vous allez retrouver une panoplie de logiciels libres adaptés à la radio. Parce que je pense que, en réalité, si on utilisait ces logiciels libres, on amortirait beaucoup les coûts d'investissement qu'on fait dans les entreprises. En ce moment, par exemple, la CRTV qui utilise des logiciels à licence, je pense par exemple à Radio Assist, qui est l'un des logiciels prisés par la CRTV et la plupart des médias audiovisuels. On prend par exemple plutôt Zara Radio, qui est un système d'exploitation et de gestion de la radio complètement, de la cabine d'enregistrement, du studio de montage, de la cabine de mise en onde jusqu'au studio du direct. Toutes les informations peuvent être drainées et je vais dire quoi, modélées au travers de Zara Radio. On a Audacity que la plupart des journalistes
Audacity utilise
utilisent,
d'ailleurs.
mais sans savoir que c'est un logiciel libre.
C'est un logiciel libre d'ailleurs. Bon, est-ce que vous faites recommandation aux décideurs? Vous y connaissez. Alors, vous savez que dans la plupart des décideurs qui sont pratiquement une barrière de protection avec ces informaticiens qui attendent des pécunes, hein, de
Justement, le problème dans notre pays, comme dans tous les pays d'ailleurs, qui utilisent dans la plupart des cas les logiciels sous licence, c'est que généralement, on ne voit pas cette plus-value énorme qui pourrait être exploitable. C'est qu'on voit le profit pécunier direct, et ce profit pécunier direct, c'est que on se dit si on supprime tous nos logiciels à licence, tous les secrétariats bureautiques qui vendent tous ces logiciels à licence, là, on voit qu'eux, ils vont seulement perdre de l'argent sur le coup. Mais on ne voit pas qu'en réalité, si on calcule, si on s'assoit et qu'on calcule, par exemple, comme je disais, je continue dans l'exemple du média radio, si on achète une licence de 10 millions de francs CFA pour pouvoir installer tout le système radio assiste sur tout le réseau CRTV, par exemple, alors qu'on prend un Zara radio gratuitement sur le net, on installe dans toutes les radios également, et on prend Audacity qu'on installe dans ces radios, on prend Format Factory pour pouvoir, je veux dire, convertir tous les fichiers audio, vidéo, texte, photo et tout cela. Qu'on installe les coûts qu'on utilise, là, ce seront peut-être les coûts de duplication des CD, dont les frais d'achat des CD qu'on aura dupliqués autant de fois et remettre à toutes les stations et
Même
tous
si on a
les.
une connexion Internet, on peut le télécharger également à n'importe quel point du
Voilà.
globe qu'on
Donc,
soit.
si on fait la part des choses, je crois que pour pouvoir mettre cet investissement-là, on ne dépensera pas plus de 50 000 francs au lieu d'acheter, je vais dire quoi, toute cette licence-là qui coûte déjà 10 millions de francs. Ensuite, on aura toute une grosse expertise. Or, là, si on déplace des gens pour installer cela ou former le personnel, on ne va pas dépasser de toutes les manières pour tout le pays les 1 million, 2 millions de francs CFA, alors que pour, par exemple, le logiciel à licence, on est dans un coût d'investissement de près de 20 millions de francs. Et on a un autre gros problème, c'est qu'on se retrouve avec les attaques à virus à tout moment, alors que si on est sous système d'exploitation sous Linux, dans un système d'exploitation
Très sécurisé.
à licence libre, on se retrouve dans un système totalement sécurisé et puis la maintenance de nos machines se fait plus intelligemment.
Et il faut également préciser que les logiciels libres s'utilisent plus facilement parce qu'on se dit que c'est
très intuitif.
Très voilà. Intuitif. Merci Dané. Je pense que beaucoup de décideurs vous écoutent en ce moment et pourront
on
dire
l'espère
que...
vraiment parce que je crois que le lobbying est fait depuis des années au Cameroun, mais jusqu'à présent... ça ne ment pas totalement et on espère qu'un jour on va se retrouver à, par exemple à l'Assemblée nationale en train de voter une loi imposant je ne sais pas un certain quota d'utilisation
de logiciels libres
dans les économies. Administrations publiques et réaliser ces économies qui pourraient être mis à profit dans par exemple l'emploi jeune parce que c'est ça le gros problème. On a beaucoup de jeunes. On est une population totalement jeune et on prétend à l'émergence. Et pour émerger, il faudrait déjà que tous ces jeunes-là réussissent à avoir un emploi rémunéré tous les mois.
Voilà, on va revenir à M. Amadou Zoumba. Alors, comment vous avez fait pour prendre langue avec toutes ces personnes, vous qui êtes, toutes ces intelligences, vous qui êtes en Allemagne, comment ça s'est passé?
Je vais d'abord commencer avec une citation de Gandhi qui dit « Une vie de sacrifice est le sommet suprême de l'art. Elle est pleine d'une véritable joie. » Quand j'étais passé à Maroua en 2009, disons à peine un an après la création de l'université de Maroua, j'avais eu l'occasion de rencontrer le professeur Saïbou Issa qui avait la charge de diriger l'école normale supérieure, la première école de l'université de Maroua. Nous avons échangé. Et quand je suis revenu en 2010, j'avais eu l'occasion d'intervenir dans ce que le professeur Collier avait dénommé journée portes ouvertes, où on pouvait faire des interventions, des exposés. Et là, j'ai parlé effectivement de TIC, de la fibre optique, ainsi de suite. Et avec tout ce support, et surtout en 2010, j'avais aussi eu du professeur Saïbou Issa les revues Kaliao, où il y avait beaucoup d'interventions intéressantes, c'est-à-dire appliquées au développement des régions septentrionales. Quand je parle de la géographie, où on essaie d'expliquer comment est-ce que la région de Mokolo est propice pour l'agriculture maraîchère, l'oignon et ainsi de suite, je suis rentré en Allemagne, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas mieux de mettre aussi nos atouts, nos expériences que nous avons eues à l'extérieur, au service du développement des régions septentrionales. Donc voilà un peu comment l'idée est venue. Et quand j'ai eu à présenter cette idée et surtout l'engouement qu'on avait eu au niveau des journées portes ouvertes en Allemagne, parce qu'il y a une association pour le développement du Cameroun septentrional, donc il y a deux sièges en France et en Allemagne. Juste pour des raisons de fiscalité. Et puis, quand on fait des dons à une association, on a la possibilité d'avoir des réductions sur les impôts qu'on paie en tant que salarié. Donc, voilà pourquoi on a créé ADC Germany qui a son siège à Düsseldorf, mais nous poursuivons les mêmes objectifs que l'ADCS France qui est basée dans l'île de France. Nous avons aussi, à travers beaucoup de projets, parmi lesquels des lits d'hôpitaux qu'on a eu à avoir de l'Allemagne, qu'on a pratiquement donné à trois hôpitaux, l'hôpital protestant de Ngaoundéré, l'hôpital de Tcholiré et l'hôpital de Bogo. Donc voilà, grosso modo, avec toutes ces idées, on s'est lancé. Quand je suis arrivé en mars 2012, nous avons initié ce colloque, en principe, peut-être colloque, c'est un peu trop dit. Nous, on aimerait avoir une sorte de rencontre, pas un colloque scientifique, mais une sorte de rencontre pour discuter effectivement des
c'est
enjeux.
C'est un peu ça qui a le mot colloque qui a pratiquement fermé la porte à beaucoup de personnes qui estimaient qu'il n'était pas assez initié aux choses assez savantes.
Et je crois que nous sommes à la première édition et ce colloque où cette rencontre se veut triennale, c'est-à-dire tous les trois ans. Ça peut être à Maroua, ça peut être à Ngaoundéré, ça peut être à Garoua ou n'importe quelle autre ville des régions septentrionales du Cameroun. Là, on va corriger le tir parce que l'idée derrière cette rencontre, quand on lit déjà le titre, enjeux et perspectives techniques, économiques et sociales pour le développement du Cameroun septentrional à l'horizon 2035, ça dit tout. Ça signifie que toutes les technologies qu'on connaît qu'on applique peuvent être utilisées au service du développement de la région. C'est peut-être une sorte de science, mais ce n'est pas la science pure telle que le mathématicien ou alors le physicien va le définir. Et bien évidemment, on utilise toutes ces sciences, mais
au la service. Science,
c'est au service de la population. Donc, pour peut-être paraphraser Einstein qui dit... On sait un peu ce qu'il a eu à faire avec la bombe atomique.
Ouais.
En principe, l'idée n'était pas d'utiliser ça pour tuer quand il faisait, mais on a vu ce que
ça a donné.
Ce que ça a donné. Et voilà un peu pourquoi on se dit qu'en organisant ce genre de rencontre, déjà, on connaît, on essaie de voir qui est capable de faire quelque chose. Et de deux, on remarque aussi qu'il y a un engagement... des autorités. Parce que quand je vois un peu, quand j'étais arrivé le 4 décembre à Marois, je crois que la première idée c'était d'abord de demander si ça vaut la peine d'organiser cette rencontre, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été faites. Et je salue ici solennellement l'engagement de monsieur le recteur de l'université de Marois qui a tout mis en moins de 4 jours pour que nous ayons la confiance. C'est-à-dire, il a vraiment montré aux jeunes que l'engagement des autorités peut redonner confiance aux jeunes. Et voilà un peu, et quand on voit toute cette panoplie d'articles qui ont été proposés, et à l'époque, quand on lançait l'appel à communication, on n'était pas certain qu'on devait avoir autant de communication. Voilà la raison pourquoi on a eu à choisir 3 pôles, énergie renouvelable, TIC et économie sociale et projet de développement, pour avoir une chance, puisque c'est la première édition, la première expérience, c'est-à-dire... Au lieu, il fallait aller de l'information à l'expérience. Maintenant, nous avons acquis ces expériences. On sait que la jeunesse, parce que quand on voit un peu les articles qui ont été proposés, c'est en partie des jeunes, des étudiants et des opérateurs économiques qui essayent encore d'émerger.
D'accord. C'est bien, mais il y a un thème qui a retenu particulièrement notre attention. Peut-être que comme vous avez une vue assez globale et large, qui a été proposée par Andy et Jérémy, qui parle de l'abondance et le manque d'eau, un problème permanent à l'extrême nord, dans la région de l'extrême nord camerounaise. Alors, nous allons reprendre ça autrement, l'agir, la gestion, intégrer des ressources en eau dans la région. Quand on sait qu'en saison sèche, il n'y a pas d'eau, en saison de pluie, il y a de l'eau, et l'eau se retrouve en saison sèche dans la nappe phréatique. Alors, comment faire pour gérer la problématique de l'eau dans la région de l'extrême nord à la lumière donc, de tout ce qu'on a comme matériel?
Je dois avouer qu'on va aller au-delà de l'intervention de oui. M. Dier Jérémy, parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions qui allaient dans ce sens.
Dans ce sens.
Une fois de plus, c'est l'utilisation de la technique au service de la population. Il y a eu des interventions parlant, par exemple, des régions du Hardé, où en principe, en saison pluvieuse, c'est pratiquement une zone où on peut peut-être cultiver du riz, mais il y a quelque chose qui ne tient pas. Il y a un intervenant qui travaille à la Sault de Coton qui a fait une présentation. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces hardés pour pouvoir faire de l'agriculture, c'est-à-dire du mil, du riz, et ainsi de suite. Bon, ça, on n'entre pas en détail. Voilà une sorte d'application où on essaie de maîtriser de l'eau, c'est-à-dire en saison pluvieuse, on va essayer de faire des drainages, ainsi de suite, afin que l'eau se canalise peut-être dans la zone où on peut cultiver du riz, et de l'autre côté, on peut faire du mil, et ainsi de suite. Ça, c'est une intervention. La deuxième intervention, c'était hier, au niveau de TIC, comment est-ce qu'on peut utiliser les TIC avec des capteurs pour pouvoir...
Sonder
l'eau d'abord, et puis la composante chimique du sol. C'est-à-dire, s'il y a peut-être quelque part des endroits où on a besoin de quelques engrais et de l'autre côté on n'a pas besoin, on peut utiliser ce système qui est basé sur les TIC et l'électronique. Donc voilà, et quand on voit tout ça, et en plus de tout ce qui a été dit, il y a aussi l'aspect communautaire qu'il ne faut pas négliger, parce qu'il y a des techniques qu'une personne ne pourrait peut-être pas s'en approprier, mais s'il y a une communauté regroupée peut-être sous forme d'une coopérative qui s'associe soit dans un village, on peut peut-être investir afin que ces populations qui sont dans les villages puissent profiter d'un système commun qu'ils ont eu à investir et sur lequel le développement va se baser. Donc ça va au-delà de la maîtrise de l'eau. C'est un système qui doit normalement couvrir toutes les activités agro-pastorales. Les énergies renouvelables, c'est aussi la même chose, parce que, comme vous l'avez dit, en saison sèche, il y a manque d'eau. Pourtant, on a une nappe phréatique. Nous pouvons utiliser les énergies renouvelables, même dans les bourses, pour pouvoir installer des pompes immergées qui puissent, en saison sèche, pomper de l'eau qu'on pourrait mettre à la disposition des populations et surtout des animaux, parce qu'on peut peut-être à un endroit créer un lac ou à travers ces pompes immergées alimentées à l'énergie solaire, qu'on puisse mettre de l'eau à la disposition des bœufs, par exemple, qui on va peut-être essayer de canaliser un endroit où le passage des bœufs ne va pas trop influencer le sol, mais qu'on ait une sorte de station où les animaux peuvent s'abreuver. Et si on prend le côté touristique, on prend Ouaza par exemple, on peut aussi faire ces mêmes techniques pour permettre aux animaux de s'abreuver et ainsi drainer les touristes qui pouvaient, à une heure précise, savoir qu'à telle heure, si je vais à tel endroit, il y a un point d'eau où les éléphants viennent s'abreuver, ainsi de suite. Voilà comment est-ce que les technologies, disons les techniques des énergies renouvelables, mais aussi les TIC, pourraient être utilisés pour la maîtrise de l'eau dans les régions septentrionales.
Voilà, peut-être on va toujours continuer avec vous ou l'un des panélistes sur cette table pour parler des inondations qui ont non seulement endeuillé quelques familles dans le Grand Septentrion ou peut-être causé d'énormes dégâts qui, il faut le dire, le chef d'État s'est déplacé en personne pour venir assister, le coup présidentiel pour venir assister encore cette personne. Et beaucoup d'argent a été dépensé donc non seulement pour venir en aide, mais pour caser ces populations. Alors, est-ce qu'on peut pas mettre, il n'y a pas eu un intervenant pour parler de TIC pour pouvoir gérer, pour pouvoir contrôler en amont ces eaux. Est-ce que ça n'a pas été dit? Si ça a été le cas, qu'est-ce qui a été dit? Oui, je vois déjà que Dayan Paul a certainement exposé. Oui.
Effectivement. Il s'agit justement là de la première intervention de l'atelier, de la première présentation de l'atelier TIC.
Oui.
Monsieur Dayan travaille sur un projet de prévention des risques,
oui,
de risques de catastrophe. Et il est question de recueillir les données météorologiques sur un site qui existe. Ajouter à ces données météorologiques les connaissances locales. Vous savez que nos grands-parents qui n'ont pas été à l'école savaient interpréter certains signes. Donc, je me rappelle une fois, ma grand-mère, il y avait des nuages, je disais il va pleuvoir, elle a dit non. J'ai dit pourquoi tu dis qu'il ne va pas pleuvoir? Il disait, je ne suis pas né aujourd'hui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des connaissances
empiriques.
Voilà, empiriques qui peuvent aider à la prévention des risques. Donc, il propose donc une approche qui va aider les autorités à prévoir les risques de catastrophe et justement à prendre des mesures pour que nous n'ayons pas ce que nous avons eu récemment.
Oui, il faut préciser que l'ACDIC nous a renseigné qu'il n'existe plus de station météorologique au Cameroun. Tout est en panne. Et nous savions également dans les villages avant, dans les rivières, les cours d'eau que nous appelons communément Mayo, il y a des jauges avant qui étaient fonctionnelles, aujourd'hui qui ont disparu. Est-ce que vous avez quand même saisi les autorités sur place pour faire réveiller un peu cette action? Parce que le président lui-même a prescrit cela pour une cartographie des risques.
Bon, je pense que la voie la plus autorisée a donné des instructions, donc il n'est plus besoin que nous allons dans ce sens. Mais je reviens au niveau de l'approche de Dayan,
oui,
qui prend aussi en compte les données fournies par les stations météorologiques. Et ce qui est intéressant dans son approche, c'est que cela va se présenter sous la forme d'applications mobiles aussi. Donc, on y revient. Ça veut dire que au-delà de la prévention des risques qui intéresse ici les populations qui peuvent interpréter, parce qu'au vu des données qui seront reçues, qui seront analysées, la décision ne sera pas du ressort du paysan. Mais son approche est aussi, va servir le paysan en ce sens que le paysan pourra savoir qui va pleuvoir aujourd'hui, qui ne va pas pleuvoir demain, de sorte qu'il pourra mieux gérer son activité agricole.
Donc, voilà. Justement, sans vouloir vous couper la parole, je crois que selon le programme du colloque, on devrait avoir un certain nombre de présentations sur la prévention des risques. Il y a une qu'on a juste eue en écrit parce que le conseil ne pouvait plus faire le déplacement.
Est-ce que tu peux nous faire l'économie?
Et justement, c'est une présentation qui a déjà été faite ici à Marois il y a quelques mois, justement.
Dans le cadre de Barcamp.
Marois Camp. Et justement, là, c'était plutôt focalisé sur Google Earth. Parce que on utilise un certain nombre de choses sur Internet sans trop y prêter attention. Google, Earth, c'est une version de Google qui est focalisée sur l'observation de tous ces événements géographiques, climatographiques et tout cela. Et il est totalement libre de vous positionner. On peut aller retrouver même nos petites cases du village là-dedans. Et avec Google Earth, on a la possibilité d'avoir ces données météorologiques au-delà de ce que M. Paul Dayan a également donné par rapport au site. Donc, on a la possibilité d'observer, parce que d'observer c'est toutes ces données-là, et de pouvoir faire une prévision en observant tout cela. Donc, les techniciens de la chose peuvent le dire. La présentation qui a été faite par Gaëtan Izan partait de cela pour pouvoir créer un réseau de... techniquement, on appelle le bulk SMS, pour pouvoir transférer toutes ces données par SMS à tous les gens qui sont dans les zones à risque. Et eux également pouvaient être une zone de transmission par SMS également, eux qui observent, ici il a plu, voilà le lit de telle rivière est en train de déborder.
Et ils peuvent apprendre où va
voilà,
se déverser.
Et on sait où ça se déverse. Et même sur Google Earth, on est en train de... On voit les prévisions sur 2-3 jours, parfois une semaine, un mois et un an. Voilà comment le paysage s'il va se modifier. Et on sait exactement qu'à tel endroit ça peut aller comme cela. Donc c'est pour dire que on peut prévoir environ 90% ce qui pourrait arriver. C'est vrai que nous ne sommes pas Dieu, mais on peut prévoir et vraiment avoir une longueur d'avance pour pouvoir prévenir un certain nombre de catastrophes.
Voilà, on va s'intéresser. Oui.
Je vais peut-être ajouter quelque chose parce qu'il y a eu
certainement
trois interventions qui parlaient effectivement de... Il y a l'intervention de Madame Fouba vient de faire allusion et il y a eu deux autres interventions. Il y a une intervention qui parlait de l'usage des TIC pour la sécurité des biens et des personnes. En principe, nous avons voulu faire une conception avec une petite maison modèle et nous avons fait venir un contrôleur de l'Allemagne, mais malheureusement, le logiciel, celui qui devait venir avec le logiciel, a eu un empêchement à la dernière seconde, mais la présentation a été faite. Il s'agit de quoi en principe? C'est que nous avons constaté au niveau de la sécurité des biens et des personnes, il y a des cambriolages et ainsi de suite, alors qu'il y a des méthodes qu'on peut bien mettre à la disposition de ceux qui pouvaient s'en approprier, ou alors même au niveau de l'État, pourquoi pas, de mettre des systèmes de contrôle où il y a carrément des systèmes de visualisation, où il y a, s'il y a des endroits où des personnes ne sont pas autorisés à aller, que le système alerte déjà avec des systèmes d'alarme, et ajouter à cela les technologies mobiles, le GSM, qu'on peut peut-être doter cette station-là d'un système GSM où le prochain commissariat ou bien la prochaine station de sécurité publique puisse directement être alerté et intervenir. Voilà une solution qui a été testée. Nous avons fait une démonstration en Allemagne lors d'une assemblée générale de l'ADC Germany. On avait bien voulu le présenter ici, mais malheureusement, le matériel est là, mais le logiciel
n'est pas arrivé.
Ça, c'est un point. Il y a une autre intervention qui a parlé du système d'alerte pour le choléra, ainsi de suite, toujours en utilisant les TIC. Donc, nous voyons que dans toutes ces panoplies de technologies que nous connaissons tous, qu'on peut utiliser, il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter, parmi lesquelles les inondations, puisqu'il faut aussi juste s'installer. Comme vous l'avez dit déjà, ça n'existe pas, mais mieux vaut reprendre tard que de ne jamais le faire. Et comme il l'a souligné, le chef de l'État l'a vu personnellement, et je crois que les autorités, ceux qui sont, ont la charge de, d'implémenter cela, doivent se mettre au travail pour que ce genre de catastrophe ne soit plus quelque chose de connu dans les régions.
Nous pensons que le gouverneur de la région de l'Extrême Nord, Awafonkar Augustine, est en train de nous suivre, et le délégué régional du Minipat, qui sont en charge d'un de ces questions, sont en train de nous suivre pour pouvoir tirer profit de toute cette expertise que vous mettez d'ailleurs gratuitement au service du peuple camerounais, de ceux qui sont dans la région de l'Extrême Nord, parce que nous avions vu pendant cette période-là, c'est des personnes qui ne dormaient pas, qui étaient pratiquement debout dans les eaux, en train de vouloir secourir au prix de leur vie, sans toutefois oublier les dégâts collatéraux que nous-mêmes aurions qu'on a également subi, parce qu'il fallait régler ça.
Je vais peut-être ajouter quelque chose, parce que quand on parle des autorités, nous allons au-delà. Parce que quand on comprend la philosophie de la décentralisation,
oui,
ça signifie que même les communes, c'est-à-dire les maires,
peuvent s'approprier.
Les délégués du gouvernement peuvent s'en approprier sans toutefois avoir l'obligation de passer comme à la, dans les années précédentes par le ministère de tutelle. Donc ça signifie que s'il y a peut-être, si nous prenons la région de Maga ou bien de Yagoua, s'il y a des maires qui aimeraient bien avoir ce genre de technologie et qui voudraient peut-être avoir des coopérations avec des mairies dans les pays occidentaux, ça existe aussi. Ce genre
oui, le jumelage.
Le jumelage, ainsi de suite. Et ouais, je crois que si on a, ceux qui ont vu les actualités ces derniers jours ont vu que dans le cadre de Africité à Dakar, il y a eu beaucoup d'échanges entre des mairies qui ont eu à représenter le Cameroun et d'autres pays d'Afrique avec des pays occidentaux. Ce genre de coopération peut aussi être utilisé pour doter des régions à risque par des stations peut-être.
Oui, mais je pense que la prochaine fois, vous allez changer de cible. Vous n'allez pas seulement vous cantonner au niveau universitaire, que les mairies seront invitées, les autorités administratives également peuvent être utilisées, invitées. Davantage, la société civile diversifiée peut venir également participer pour ne serait-ce que relayer l'information. Des groupes de pression peuvent se créer là, et puis on peut passer à l'application directement.
Concrète,
voilà. C'est même le but visé, j'en suis sûr, de votre regroupement, donc de Maroua. Monsieur Wansoué, combien va coûter la migration donc, de cette application du web à la forme plus réduite que nous connaissons? Parce qu'il y a un problème de coût. On n'a pas le Nasdaq ici pour pouvoir financer ce genre de choses. Comment vous allez vous retrouver où, cette banque?
Ok, merci pour la question. Elle a été posée hier lors de l'exposé.
Ouais.
Parce que nous avions des représentants de la banque.
Vous comptez sur M. Amadou Zrumba qui va encore aller secouer les cocotiers en Allemagne.
Nous avions avec nous des représentants de la banque islamique.
De développement.
De développement.
Ouais.
Qui nous demandaient combien ça pourrait coûter la migration. Il faut comprendre que le projet devra mettre en équipe non seulement les informaticiens tels que c'est déjà là, mais également des électroniciens. Et avec le professeur Collian qui pilote le projet, une estimation a été faite de l'ordre de 3 000 à 4 000 euros environ.
Ça veut dire combien en France CFA? Pour ceux qui nous écoutent, vous savez, les calculs, ce n'est pas aussi facile.
Quand comme l'euro varie généralement, si
la barre de 650,
4000 fois 650, ça fait environ que...
Bon, heureusement qu'il y a...
Disons, moi, je le fais d'une façon simple. Je sais que 1500 euros fait 1 million.
Oui, ça fait combien? Environ 20
2 millions 662 000.
2 millions 600. Je pense que même au Cameroun, même une commune peut financer cela.
Très bien.
Ça coûte pas aussi cher que ça.
Pour permettre donc à ces personnes qui sont démunies, qui ont des problèmes, parce que la réalité à laquelle nous avons fait face au centre nous a quand même touchés. Nous avons des personnes qui arrivent, qui n'ont pas un système d'éducation au sein du centre, qui sont entretenues pendant une certaine période et qui sont reversées dans le système habituel. Ils vont au lycée, ils vont au collège,
socioprofessionnel.
Ça veut dire qu'ils partent déjà avec un retard. Et si l'outil est à leur disposition, avant d'arriver rencontrer les autres, ils peuvent déjà s'approprier un ensemble de choses. Parce qu'il faut signaler que la calculatrice, comme toutes les calculatrices, a des fonctions, addition, la soustraction, division, et des fonctions scientifiques, le cosinus, le sinus et autres. Ça veut dire que l'apprenant peut déjà s'approprier un ensemble de choses avant de rejoindre les autres. Donc, la migration pour revenir peut coûter dans les 2 millions, comme on l'a dit, 2 600 000.
Et... Oui, M. Amadou Zoumba.
Je vais peut-être ajouter quelque chose parce qu'il a eu à citer celui qui est venu de la BID de développement. Effectivement, il est en train de faire une présentation parlant des mécanismes de financement de certaines fondations, en principe, au niveau de la Banque islamique. Il y a des mécanismes qu'on appelle WAF qui permet à des gens de créer peut-être une fondation. On leur octroie un crédit payable sur 10 ans et les revenus de ces crédits, c'est-à-dire on peut les utiliser pour venir, non, par exemple, pour financer ce genre de...
Puisqu'il ne perçoit pas les taux d'intérêt qu'on reverse d'ailleurs.
Concrètement, comment ça se passe? Ça signifie que c'est des projets qui vont autour de 5 millions de dollars. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de l'immobilier où c'est rentable, quelqu'un peut aller... La condition, c'est d'avoir un espace où on peut placer cet immeuble qui peut rapporter quelque chose. Et il faudrait payer cet argent sur 10 ans. Ça signifie que si je prends l'exemple de Mawa aujourd'hui qui a un problème crucial de logement, si on essaie de calculer avec un business plan bien défini, et on se rend compte que en mettant peut-être ce genre d'investissement, on peut dès la première année avoir, parce qu'il y a une partie qu'il faut, je crois que si je ne me trompe pas, c'est dans les 600 à 700 000 dollars qu'il faut payer par trimestre. Donc, et si cet investissement peut rapporter par exemple 700 à 800 000 dollars par semestre, le reste, ce qui est là, peut être utilisé pour financer ce genre de projet. Voilà une idée par exemple de pouvoir financer des fondations sans toutefois avoir à compter comme aujourd'hui sur des associations où c'est les membres qui doivent cotiser et à long terme, ces membres se fatiguent. Mais si on a déjà ce genre de mécanisme qui puisse s'autofinancer, je crois qu'on peut advenir à ce genre de
problème. Voilà. On va parler d'autres choses à la fin de ce forum de Marois, qui se veut un forum assez ouvert pour tout le monde avec des applications assez concrètes. Les résultats, les résolutions, tout ce qui sera sorti concrètement, comment vous allez vous faire profiter à tout le monde? Vous allez le mettre en ligne, vous allez faire des publications, quelle est la formule retenue?
La formule retenue, nous allons non seulement publier en ligne parce qu'on a un site web où toutes les communications seront publiées.
Comment ça s'appelle? Quelle adresse?
C'est www.woylacameroun2035, Woyla avec Y, Cameroun avec OU en français, 2035.org. Donc c'est un site, c'est un domaine qui a été réservé pour tout ce qui sera de ces initiatives dans les régions septentrionales. C'est la région pour laquelle on a choisi Woyla pour essayer de cadrer.
C'est Woyla, le vocable qui cadre vraiment avec la partie
avec
septentrionale.
Les trois régions septentrionales, effectivement. Et toutes les initiatives, si elles sont connues, peuvent être publiées sur ce site. Donc c'est pour ça, 2035, à l'horizon 2035, juste pour essayer de ne pas se perdre sur la vision qui a été tracée. Et il revient maintenant aux jeunes d'animer cette vision-là afin que en 2035, pourquoi pas avant, de dire que voilà la vision qui a été tracée. Et nous, on a atteint le seuil de l'émergence en 2020, par exemple. Et là, on comprendra que Nos parents, nos grands-parents nous donnent des pistes à suivre, une vision, et nous, on a l'obligation
de les implémenter.
Et voilà pourquoi quand j'essaye de voir, par exemple, le document stratégique pour la croissance et l'emploi qui a été élaboré par le MINEPAT, ça regorge beaucoup d'informations qu'on pourrait exploiter afin de pouvoir aller vers des personnes adaptées à nous accompagner et leur dire que voilà ce qui a été défini. Et vous êtes peut-être en charge des télécommunications, s'il faut citer peut-être Camtel qui aujourd'hui a peut-être l'exclusivité de mettre la fibre optique. Pourquoi le projet qui a été normalement initié et qui devait finir en 2013 n'est pas encore fini? Et là, je crois qu'avec ce genre de questionnement, on va peut-être amener nos dirigeants à prendre un peu plus d'engagement pour remettre les jeunes en confiance, parce que c'est ce que les jeunes attendent, qu'on leur donne, qu'on voit que les engagements, les visions qui ont été définies sont aussi accompagnés des engagements des autorités, puisque c'est de ça. Puisque si je n'ai pas les moyens, par exemple, de m'installer à Maroc, parce que à chaque fois que je m'installe et j'ai peut-être une entreprise de génie logiciel où je vais peut-être sur la base du offshore développer des logiciels, des services que je pourrais vendre en Occident. Si à un moment, peut-être au niveau de l'Occident, il y a le problème de timing, si je dis à mon client que le service que je te propose, je vais le livrer demain. Si demain le service n'est pas là, c'est un problème. Et ça passe en principe pour ce qui concerne les logiciels par une communication sur laquelle on peut compter la fibre optique pour le moment.
Voilà, pour terminer, je vais vous poser une question. Ça semble être peut-être banal, mais il faut la poser. Alors, toutes ces expertises camerounaises qui se retrouvent de l'autre côté, l'Hexagone, du côté des États-Unis, de compétences sûres. Vous êtes de ce côté en Allemagne, là-bas. Nous avions vu des Camerounaises qui ont participé à l'écriture du programme SMS. Nous avons vu des jeunes talentueux, ingénieux, ressortissants de la région de l'extrême nord. Nous avons vu avec ces calculatrices. Nous avons vu l'application tout à l'heure à nous proposer par M. Djoroué Temwa. Pourquoi l'État camerounais ne s'approprie pas? Est-ce qu'on a peur de vous? Ou est-ce que le politique s'en éloigne parce qu'elle n'est pas informée et sous-informée? Je parle un peu ici des représentants des peuples, les maires, les députés, nous en avions beaucoup. Ne serait-ce que pour la petite histoire, nous devons avoir plus d'une trentaine de députés à l'Assemblée nationale, tous bords confondus, ça fait un pôle donc, de lobbying. Qu'est-ce qui cause problème?
Je crois que c'est peut-être aussi un manque d'information parce que j'ai peut-être eu l'occasion ou bien la chance d'avoir intervenu avec une équipe des Camerounais et plus une entreprise allemande à l'Assemblée nationale en avril dernier où il fallait expliquer aux honorables députés l'usage de la biométrie pour la refonte électorale. Je dois avouer qu'au sortir de cette présentation, où nous n'avions pas été parmi les soumissionnaires, le P6, notre
rôle. Mais ce sont des Camerounais qui ont gagné le match au Tchad. Hein?
Notre rôle était juste d'expliquer aux honorables députés en quoi est-ce qu'il faudrait qu'ils s'attendent lors de l'application de la refonte de la liste électorale sur la base de la biométrie. Et au sorti de cette rencontre, je crois que le lobby a été créé parce qu'il y a beaucoup de honorables, que ce soit des régions septentrionales ou bien des autres régions du Cameroun, qui nous ont abordé pour essayer de discuter et voir un peu comment est-ce que cela peut se passer, quelles sont les difficultés, ainsi de suite. Et je crois que c'est déjà un début. Il faut aussi préciser le mot diaspora. Je vais peut-être une petite anecdote. Quand nous étions arrivés, parce qu'il y a d'autres colloques qu'on organise, il y a le Davok par exemple, oui. Où il y a la session de 2011 avait eu lieu à Yaoundé, quand nous sommes arrivés. Dès que j'ai dit à un de mes amis que nous sommes de la diaspora, il m'a dit « Attention, diaspora c'est un mot très fort. Quand vous dites diaspora ici, on a peur de vous. » En voyant ce qui s'est passé en Égypte, ainsi de suite, on croit que oui, c'est déjà téléguidé pour venir
renforcer de l'insécurité. Le système, oui,
je suis content de voir aujourd'hui qu'après peut-être 7 ou 8 ans où nous sommes en train de venir essayer de faire, ce genre d'événement ne s'est pas encore produit. Ça signifie qu'avec le temps, on aura confiance en nous et je suis certain que notre expertise sera utile pour le développement du Cameroun.
Merci. C'était donc une table ronde consacrée au colloque international Enjeux et perspectives techniques, économiques et sociales pour les régions septentrionales du Cameroun à l'horizon 2035. Et nous recevons ici, nous avons eu l'honneur d'avoir comme invité Dorothée Danejo Foba, journaliste multimédia, Joroué Temboa, qui est ingénieur télécom, enseignant à l'École normale supérieure de Maroua, l'université de Maroua, bien sûr. Amadou Zrumba, qui nous vient de l'Allemagne, il est ingénieur informaticien, génie logiciel à Zest, MSMT en Allemagne, et comme quatrième invité, donc quatrième posture, monsieur Wansoué Wambicheng, informaticien, enseignant au département informatique de l'École normale supérieure de Maroua, équipe de production, Djamo Aman, Honoré Boaké, Simon Domouchi.